Mes absences ont impliqué quelques interruptions dans la série, mais nous continuons quand même. Nous avons abordé l'étude du discours de l'apôtre Paul aux philosophes d'Athènes, au chapitre 17 du livre des Actes. Et c'est peut-être, ça dépendra de ce que vous souhaiterez, l'amorce d'une série orientée vers l'appréciation positive et négative des propositions de philosophes. Si nous avons un moment vers la fin, je vous proposerai quelques options entre lesquelles choisir donc. Mais nous avons, dans un premier temps, bien situé notre texte. Nous avons vu de quelle façon l'apôtre Paul traite de la connaissance de Dieu que les païens prétendent avoir, indépendamment de la révélation spéciale par Moïse et les prophètes, par Jésus et les apôtres dans le Nouveau Testament, la révélation spéciale, comme nous disons, révélation biblique. Et nous avons vu que l'apôtre Paul ne juge pas totalement sans intérêt, purement et simplement équivalent à zéro, ce que les païens ont pu dire à propos du divin. Il s'agit d'une manifestation d'un certain sens de Dieu que Dieu a implanté dans l'être humain et d'une réaction à ce que Dieu montre de lui-même dans ses œuvres, mais cette connaissance est dévoyée, cette connaissance est gravement endommagée, et si l'apôtre au nom de Dieu, sous l'inspiration divine, peut en récupérer quelque chose, c'est en le purifiant et en redressant les perspectives. Nous avons vu aussi, dans un deuxième temps, quelle est la vision du divin que l'apôtre peut enseigner à ses auditeurs, avec le thème de la création comme thème clé. Ni dualisme entre Dieu et le monde, Dieu n'est pas étranger au monde et le monde n'est pas étranger à Dieu, car le monde procède de Dieu et Dieu en détermine tous les éléments, mais en même temps, pas de panthéisme, le monde n'est pas Dieu. Et Dieu n'est pas simplement le principe caché dans les profondeurs du monde, l'âme du monde, comme certains philosophes l'ont prétendu. Donc nous avons essayé de couvrir ces thèmes dans nos deux précédentes séances sur Acte 17, et nous abordons maintenant un troisième volet, et ce doit être le dernier sur Acte 17, qui concerne la vision de l'humanité et des conditions de la vie humaine en particulier. La première fois, je vous avais fait, à ma manière, une traduction très littérale et mot à mot. La deuxième fois, nous avons lu une version courante et exacte. Pour cette fois-ci, je me suis dit, bon, j'essaie de faire encore autre chose, de relire le texte, parce qu'il faut bien que nous l'ayons tous à l'esprit, mais dans une version assez libre, qui veut respecter le sens, mais qui s'affranchit de la correspondance formelle. Donc voilà, j'ai fait un petit essai, et je vous lis le texte selon cette forme de traduction. Après quoi, nous prierons le Seigneur qu'il nous guide, qu'il nous donne de bien user du temps qui nous est alloué. Et je demanderai à Madame Adeline Patin de nous conduire après que j'aurai lu donc ce texte. Donc il s'agit d'Acte 17, versets 16 à 34, je vous le rappelle. Tandis que Paul attendait ses compagnons à Athènes, il bouillait intérieurement en voyant la ville pleine d'idoles. Il discutait dans la synagogue avec les Juifs et avec les Grecs attirés par le judaïsme, et sur la place, tous les jours, avec ceux sur lesquels il tombait. Quelques-uns des philosophes des deux tendances dominantes, de la philosophie du plaisir mesuré, sont les épicuriens, et de la philosophie de l'ordre cosmique et divin, ce sont les stoïciens, quelques-uns des philosophes avaient avec lui des échanges. Certains disaient « Que veut dire cette jacasse ?» D'autres « Il a l'air d'un propagandiste de divinités exotiques. » parce qu'ils proclamaient Jésus et la résurrection. Ils le prirent avec eux et le menèrent devant le grand conseil cultuel et culturel en disant « Pouvons-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu exposes ? Car tu nous remplis les oreilles de choses bizarres. Nous voulons savoir ce que cela veut dire. » Tous les Athéniens et les étrangers en résidence ne passaient à rien d'autre leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. Debout, au milieu du grand conseil, Paul dit « Athéniens, je vous observe, vous êtes à tous égards d'une dévotion extrême. Je parcourais la ville, mon regard se portait sur vos monuments sacrés, et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « À Dieu inconnu ». Ce à quoi vous rendez un culte sans le connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, maître qu'il est du ciel et de la terre, ne réside pas dans des temples de fabrication humaine. Il ne reçoit pas de soins des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait d'une seule origine toute nation des hommes, pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a déterminé l'ordonnance des époques et les frontières de leur habitat. Il a fait qu'ils cherchent Dieu pour le trouver peut-être comme à tâtons. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, en lui, en effet, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont dit certains de vos poètes, oui, de lui, nous sommes la race. Si nous sommes donc la race de Dieu, nous ne devons pas assimiler le divin à l'or, l'argent ou la pierre, sculpture de l'art et de l'inventivité de l'homme. Dieu, fermant les yeux sur les temps d'ignorance, commande maintenant à tous les hommes, partout, de se repentir. Selon qu'il a fixé un jour auquel il va juger le monde avec justice, par l'homme qu'il a désigné, il en a fourni la preuve en le ressuscitant des morts. Quand ils entendirent « résurrection des morts », les uns se moquaient. Les autres dirent « nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». C'est ainsi que Paul les quitta. Quelques personnes, se joignant à lui, vinrent à la foi. Parmi elles, Denis, membre du Grand Conseil, une femme du nom de Damaris, et d'autres avec eux. Prions ensemble. Amen. La vision de l'homme, l'humain, l'humanité est un domaine de contact et parfois de conflit entre les philosophies et la foi chrétienne. Les philosophies, surtout les philosophies modernes, sont en grande partie des élaborations de certaines thèses sur l'être humain. L'être humain s'intéresse à l'être humain, et quand il se met à réfléchir, c'est très souvent pour déterminer quelle est la nature de l'homme, quelle est sa place dans le monde, etc. Et ce que révèle le Seigneur dans sa parole sur le même sujet doit être confronté à ce que nous disent ces philosophes. C'est un lieu de débat privilégié. L'apôtre Paul n'y a pas manqué. Dans son discours à ce grand conseil, où se trouvaient donc spécialement deux tendances philosophiques, il donne des points de repère pour déterminer ce qu'il en est de l'humain. Et il cite à ce propos un philosophe stoïcien. Il en reprend la formule. De lui, nous sommes la race. C'était le philosophe-poète Aratos, Et il est significatif, nous avons déjà un peu réfléchi à cette chose dans la première séance, qu'il ait été capable de récupérer une expression, en changeant le sens quelque peu, hein, mais de récupérer une expression qui avait été émise au nom de cette orientation philosophique-là, la philosophie donc dite stoïcienne. Les stoïciens faisaient place à la particularité humaine. Ce qu'il disait de lui, nous sommes la race, il distinguait l'humanité du reste de l'univers. Il s'était rendu compte que les humains avaient une étrange capacité. Ils peuvent dire oui ou non à une certaine image des choses, à la représentation qu'on se forme sur la réalité concernée. Il notait, relevait que l'homme peut se conformer à la raison divine qui ordonne toutes choses selon eux, c'est le logos, hein, je vous en ai parlé, ou curieusement s'en écarter. Et il prêchait la conformation à ce logos, verbe divin, cet ordre rationnel qui, pour eux, était le lien même du cosmos. Alors, s'il notait ainsi le privilège humain, c'était une inconséquence. Cela impliquait une tension interne dans leur système, dont ils n'étaient sans doute pas très conscients, mais que nous pouvons relever, c'est intéressant à relever. Puisqu'ils prétendaient que tout est divin, que le Dieu dont il parle, c'est aussi le monde dans son fond, mais il n'y a pas vraiment de principe de différenciation, puisque selon eux, ce logos divin détermine tous les événements qui se produisent. C'est comme un programme d'ordinateur, vous ai-je dit, toutes les opérations s'enchaînent. Comment se fait-il qu'ils aient pu admettre la possibilité pour l'être humain de dire oui ou non, de se conformer ou de s'écarter. Il n'y a dans l'affirmation d'un système entièrement clos sur lui-même, où le monde est Dieu, il n'y a rien qui permette de faire une différence marquante, comme celle qu'il faisait quand même pour l'être humain. Et c'est très intéressant à relever. C'est, je crois, symptomatique de l'impossibilité pour l'homme qui ne va pas dans les voies que Dieu a révélées dans sa parole de vraiment boucler le système, d'atteindre une cohérence entière. Fatalement, il est obligé soit de refuser des aspects de la réalité qu'il perçoit bien, mais il refuse de les voir, soit de les reconnaître, mais alors de supporter une certaine contradiction, le plus souvent sans l'avouer. Il y a une autre stratégie qui consiste d'ailleurs à reconnaître la contradiction, mais à la glorifier. C'est aussi une fuite, c'est aussi une échappatoire. Mais les philosophes de notre modernité tardive sont très souvent adonnés à ce genre de stratégie. Ils voient bien qu'ils tombent dans la contradiction, mais alors ils exaltent la contradiction, c'est merveilleux, c'est la vie, c'est la liberté. Ils font comme si la contradiction était un plus. Cela est assez caractéristique. En fait, c'est une échappatoire. Et malgré tout, ils restent sensibles à la nécessité de penser d'une manière cohérente, alors quand vous leur faites remarquer une contradiction en dehors de celle qu'ils glorifient, hein, mais à côté, alors là, ils essayent de se défendre, ils essayent de montrer qu'ils ne se contredisent pas. Mais devant la contradiction centrale qui procède de leur refus de Dieu, en fait, alors ils adoptent l'attitude « mais c'est merveilleux, la contradiction, c'est la vie ». Alors, ce n'était pas le cas des stoïciens, je reviens aux stoïciens, qui étaient donc parmi ces philosophes athéniens, auditeurs de l'apôtre. Pour eux, la contradiction passait en quelque sorte inaperçue. Cette contradiction se manifestait aussi dans leur manière de parler même de Dieu. Leur thèse majeure, c'est que Dieu et le monde ne font qu'un, qu'il n'y a pas vraiment de différence. Mais en même temps, ils parlaient de Dieu dans des termes personnels, comme d'un père, comme il le priait, etc. Vous voyez ? Ce qu'ils n'auraient pas fait, littéralement, au monde. Vous voyez ? Donc, malgré eux, ils étaient entraînés à faire une différence. C'est me semble-t-il, très intéressant à relever. Alors, l'apôtre Paul joue de cette contradiction interne du système stoïcien, de leur reconnaissance d'un privilège humain, et il met l'accent sur ce privilège humain. De lui, nous sommes la race. Il y a une affinité particulière entre les humains et Dieu. C'est ce qui explique la quête tâtonnante du divin, qui s'exprimait, entre autres, par la piété des Athéniens et leur scrupule qui était allé à un moment donné jusqu'à édifier un autel à un dieu qu'ils avouaient ne pas connaître. Mais, c'est cette affinité de l'être humain avec le divin qui est aussi le ressort, semble-t-il, de cette quête dont nous avons déjà parlé, mais que l'apôtre Paul donc a utilisé comme un tremplin dans son dialogue avec eux. C'est sur ce que les stoïciens là avaient reconnu du privilège humain que Paul édifie sa critique de l'idolâtrie. Il relève là aussi une contradiction interne du côté stoïcien. Ils reconnaissent que l'être humain a une affinité particulière avec Dieu, et donc ce doit être par ce qui est unique à l'homme parmi les êtres qui peuplent l'univers, donc les aspects qu'on pourra dire plus spirituels. Or, il fabrique des idoles. Il présente comme des dieux ce qui n'est que le résultat de leur fabrication. Des statues d'or, d'argent, de pierre, qu'ils ont eux-mêmes fabriquées. C'est une contradiction que l'apôtre Paul exploite dans sa critique de l'idolâtrie. J'ai lu une fois une remarque que j'ai trouvée intéressante. Ce n'était pas un théologien évangélique, mais il faut prendre son bien où on le trouve, hein, comme Paul l'a fait avec Aratos. Cette remarque, c'était que lors de la chute, au début de la Genèse, le fait de céder à la tentation, ça a été un renversement du rapport aux animaux. Puisque le diable est représenté par un serpent, l'homme et la femme qui avaient comme mandat de dominer les animaux, dominer toute la terre et dominer en particulier tout ce qui rampe sur la terre, en cédant la tentation, ils se sont soumis au serpent. Alors qu'ils devaient soumettre le serpent avec toute la terre, ils se sont soumis au serpent. L'être humain placé au-dessus par Dieu se place lui-même au-dessous dans son idolâtrie. Lui qui est, c'est reconnu par Ratos, doué d'une affinité particulière avec Dieu, il se prosterne devant des images qu'il a lui-même fabriquées, inanimées, du bois, de la pierre. Vous voyez là, le renversement, c'est ce même renversement qui est la soumission au serpent. C'est une remarque intéressante qui me conduit à souligner d'emblée le langage qui semble le plus significatif dans l'Écriture pour marquer ce privilège humain. C'est celui du premier chapitre de la Genèse, l'homme créé en image de Dieu. Voilà ce qui le distingue de tous les êtres de la création visible. Il est créé en image de Dieu, et crois pouvoir montrer, je l'ai fait hein, dans Révélation des origines par exemple, la formule est à peu près équivalente à quasi-fils, quasi-enfant de Dieu. L'image vivante de quelqu'un, où est-ce qu'on la trouve? Tel père, tel fils, tel père, telle fille. Chacun engendre son image en vertu du pouvoir de la reproduction. Donc dire que l'être humain a été créé en image de Dieu, c'est en quelque sorte le dire qu'il a été créé comme une sorte de fils, alors terrestre, simplement créaturel, mais quand même, comme une sorte de fils, c'est pour ça que je dis quasi-fils. Et le début de Genèse 4 me semble nous mettre sur ce chemin, de Genèse 5, nous met sur ce chemin en disant, en employant la même formule, image et ressemblance, Adam a engendré un fils à son image et sa ressemblance. Utilisant les mêmes mots qui sont utilisés en Genèse 1 pour la création de l'homme par rapport à Dieu. Donc, l'homme est de la race de Dieu, voilà la formule d'Aratos, il est son image, quasi-fils, voilà son privilège qui définit d'emblée la place de l'humanité dans le cosmos. J'ajoute là une chose qui n'est pas dans nos textes, mais je le mentionne au passage. Je crois que non seulement ce privilège d'être en image de Dieu, fils terrestre, c'est ce qui distingue l'homme de tout le reste de la création visible, mais aussi de la création invisible, des anges. Là, je ne suis pas d'accord avec Calvin. Parce que Calvin pensait que l'image, c'est surtout la spiritualité. Il disait, pour lui, c'était évident que les anges sont aussi en image de Dieu. Il pensait que les esprits du monde invisible sont aussi image de Dieu. Mais ce n'est dit nulle part dans toute la Bible. Ce n'est pas une expression que la Bible utilise pour les anges. Et je plaide qu'elle est au contraire réservée à l'homme, qu'elle implique aussi la distance. Les anges, en quelque sorte, sont trop près. Ce sont comme les flammes de la gloire de Dieu qui l'entourent immédiatement. Pour qu'il y ait une image, il faut qu'il y ait une certaine distance. Il faut qu'il y ait un miroir pour qu'il y ait une image. Le miroir, c'est le terrestre. C'est dans le miroir du terrestre que Dieu fait se refléter son image qu'est l'être humain. Donc l'être humain se distingue des anges et se distingue de toutes les autres créatures visibles en étant image de Dieu. Quasi-fils terrestre. Bon, ça c'est une remarque adjacente que je vous propose. Je continue à propos de l'enseignement qu'on peut tirer de notre passage et du reste de la Bible sur la nature humaine, sur la place de l'homme, la vision donc de l'humanité. Toute la tradition, jusqu'à il y a assez peu de temps, a estimé que ce privilège d'image de Dieu impliquait une structure double de l'être humain. Certains ont été, mais là c'est une opinion marginale, une minorité, jusqu'à une structure triple. Mais la grande tradition chrétienne et juive, même auparavant, c'est attesté parmi les rabbins, toute la tradition a estimé que si l'homme a cette affinité particulière avec Dieu, de telle sorte qu'on peut dire de lui nous sommes la race, s'il est en image de Dieu comme un quasi-fils terrestre, cela signifie qu'il y a une dualité dans sa constitution même. Il appartient au monde, visible, il est terrestre, il est terrien, et il y a probablement un jeu de mots dans le début de la Genèse entre le nom Adam, l'homme, et le nom Adama, la terre. Il est tiré de la Adama, lui, Adam, il y a un lien qui est là, étroitement formé. Donc il y a une part de lui-même, en tout cas. Il est derrière part de ce monde. Mais en même temps, ayant une affinité avec Dieu, Dieu étant distinct du monde, lui, suprêmement élevé au-dessus du monde, s'il a une affinité avec Dieu, il a quelque chose que n'ont pas les autres créatures visibles. Il y a une structure en lui de dualité. Alors les deux sont unis dans cette vie. Et c'est très difficile à démêler. Mais il y a quand même une composition, un être composé qui le caractérise. Ce qui s'exprime à l'aide de divers termes dans la Bible. Pour cette solidarité avec le monde extérieur, il y a le mot chair, il y a le mot corps surtout. Et pour ce qui est propre à l'être humain parmi les créatures visibles, il y a âme, esprit, cœur. Je me rappelle avoir lu aussi cette remarque d'un spécialiste d'Ancien Testament, qui était professeur à l'université de Strasbourg d'ailleurs. Les animaux n'ont pas de cœur, au sens où l'homme a un cœur. Bien sûr, ce n'est pas au sens du viscère cardiaque. Il dépeçait assez d'animaux pour leur sacrifice, pour savoir que les animaux ont des cœurs au sens de l'organe matériel. Mais ce n'est pas dans ce sens que le mot cœur est pris. Le plus souvent, lorsqu'il s'agit du proprement humain, l'organe de la pensée et du vouloir, d'abord, et aussi en troisième lieu, des émotions, des affections, voyez, c'est le centre de la personne. Dans ce sens-là, les animaux n'ont pas de cœur. Ils n'auraient pas attribué de cœur dans le langage de l'Écriture. Les choses se compliquent avec les mots pour esprit et âme, parce que ce sont des mots qui peuvent prendre plusieurs sens, qui peuvent signifier simplement le souffle, et à ce moment-là, on le trouve aussi pour des animaux. Il y a un mot pour le souffle qui, je crois, est réservé à l'être humain. Le mot « neshama », c'est ce qui est celui employé dans Genèse 2, 7, d'ailleurs. Dieu a insufflé une neshama dans l'être humain. Donc là, je pense que nous avons un terme qui est propre à l'homme et qui marque bien cette dualité constitutive. Dieu a fait l'homme double parce qu'il l'a fait à la fois pour la vie dans le monde, c'est un terrien, il n'est qu'image, mais aussi pour la communion avec lui, pour une relation, qu'on pourrait dire verticale si on veut, pour une relation avec lui qui implique une sorte d'union, communion dit union, et il faut donc qu'il y ait cette affinité que la formule citée par l'apôtre Paul implique. Celui qui s'attache à Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul, est avec lui un seul esprit. Là, c'est l'expression peut-être la plus forte dans ce sens. Il ne faut pas croire à une fusion purement et simplement. Mais de même que l'homme et la femme sont d'une seule chair, et restent deux quand même, c'est l'intensité de l'union qui est exprimée par la formule. De même, celui qui s'unit au Christ, dit Paul en 1 Corinthiens 6, est avec lui un seul esprit. Ça implique qu'il y a en l'homme autre chose que son corps, qu'il y a un esprit capable d'union avec Dieu, une dualité constitutive. Alors cela importe pour le dialogue avec les philosophies. Nous allons en prendre conscience. Les philosophies, si on considère toute l'histoire de la philosophie, se partagent en écoles diverses sur ce point, s'opposent les unes aux autres. Il y a deux philosophies en particulier que l'on appelle dualistes, qui ont mis l'accent sur la dualité interne de l'être humain, mais au point qu'on ne voit pas très bien comment l'union peut être rétablie. Ils partent de la dualité, ils la soulignent à tel point que l'unité est menacée parce qu'il n'y a pas une création de Dieu qui crée une créature quasi fils, d'abord. C'est le platonisme, d'une part, et c'est le cartésianisme, d'autre part. Les deux principales. Platon, avant les stoïciens et les épicuriens, c'est lui le grand exécuteur testamentaire de Socrate. Si on sait quelque chose de Socrate, c'est à cause de ce que Platon en a dit. On a comparé cette situation avec Jésus et les apôtres. Jésus n'a laissé aucun livre, sinon tout ce qui a été écrit par les apôtres. Il leur a confié tout cela. Bien de même, Socrate n'a écrit aucun livre. Socrate, considéré par beaucoup comme le fondateur de la philosophie, n'a rien laissé par écrit. Et c'est chez Platon, à 98%, que nous avons tout ce que nous pouvons savoir de Socrate. Il a voué sa vie d'ailleurs, Socrate ayant été condamné injustement par Athènes à boire le poison, à la mémoire de Socrate. Platon a voué sa vie, et son talent immense, son génie, à la réhabilitation de Socrate, à la diffusion de ses idées. Alors il les a modifiées peu à peu, mais Platon donc a été le grand philosophe de la période qui a précédé celle des stoïciens et des épicuriens, et peut-être peut-on dire plus grand qu'eux. Or chez lui, le dualisme est évident, c'est vraiment au cœur de l'affaire, la distinction entre le corps qui est dévalué, mais pas trop brutalement, c'est quand même pas le principe même du mal. Ça se sera accentué chez d'autres. Chez les gnostiques, là, le corps deviendra le principe même du mal. Mais pas chez Platon. Hein. Il est inférieur, et cette infériorité est l'occasion pour ce qui ne va pas aussi. Et puis, il y a l'âme intellectuelle, qui a une affinité avec le céleste. Un dualisme du ciel et de la terre qui se prolonge en dualisme de l'âme et du corps. Et l'âme, intelligence essentiellement. Voilà un premier type de dualisme qui a dominé pendant au moins un millénaire et demi. On pense qu'on peut dire même presque deux millénaires. En tout cas, un millénaire et demi de pensée chrétienne. Lorsque les pères de l'Église ont essayé d'entamer le dialogue avec les philosophes, à cause de ce dualisme et de quelques autres traits, ils ont dit « mais Platon est de notre côté ». Et certains, même pour expliquer qu'un païen ait pu penser si bien, ont dit « il a pillé Moïse, il a dû savoir ce que la révélation de l'Ancien Testament avait déjà enseigné ». Certains ont dit ça, d'autres ont dit que ce sont les démons qui, pour mieux tromper, ont imité. Mais parce qu'ils voyaient ces grandes similitudes. Donc les pères de l'Église ont dit, voilà, Platon, c'est notre philosophe, c'est notre allié. Et la pensée chrétienne est devenue platonicienne, l'adjectif qu'on emploie, hein, platonicienne, de manière dominante pendant des siècles et des siècles. Donc ça, c'est une première forme où la dualité est reconnue, mais alors même accentué bien au-delà de ce qu'on trouve dans la Bible. Et avec un très grand malentendu, avec ce dualisme à l'esprit, ils ont lu les passages de l'apôtre Paul sur la chair et l'esprit. La chair et l'esprit qui sont en lutte, hein, Galates 5, Romains 7, 8, etc. Et ils ont cru que ça voulait dire l'âme et le corps. C'est ce qui a introduit dans la pensée chrétienne quelque chose qui n'est pas biblique, mais quand même une sorte de mépris du corps, des mortifications corporelles, vous savez, tout ce que se sont infligés des chrétiens par piété dans la grande tradition catholique. Un certain mépris du mariage, parce que la sexualité, c'est vraiment très corporel. D'où le célibat sacerdotal. Vous voyez, toutes ces choses ont été liées. L'influence platonicienne a beaucoup joué sur ces traits du catholicisme contre lesquels la réforme, revenant à la Bible, a réagi, mais vous voyez comment les choses se sont passées. Ça, c'est une première forme donc d'anthropologie dualiste comme on peut dire en termes un peu techniques. Hein. Anthropologie, doctrine de l'homme, hein, vision de l'homme. La deuxième, c'est celle de Descartes, cartésianisme, qui est assez différente quand même. Bon, il héritait de toute la tradition, mais il n'a pas voulu mépriser la tradition chrétienne, pas du tout. Mais il a voulu refonder la philosophie au XVIIe siècle. Descartes, qui reste peut-être quand même à ce jour le plus fameux des philosophes français. Le philosophe allemand Hegel avait écrit à un philosophe français « C'est assez pour votre pays que d'avoir donné Descartes à la France, au monde, à la philosophie. » Descartes continue d'être. Et Descartes, donc, pose aussi un dualisme très, très rigoureux. L'homme est formé de deux substances. Il y a la substance étendue, celle qui correspond à la géométrie, au monde, et puis il y a la substance pensante, et entre les deux, il a beaucoup de peine à comprendre comment il peut y avoir union. Il n'a pas vraiment résolu le problème de l'union entre l'esprit, la substance pensante, l'intelligence, et le corps. Et parmi ses disciples, c'est assez intéressant de savoir comment ils ont cru résoudre le problème. Deux des grands disciples, et en même temps, prenant quelques distances, Descartes lui-même n'a pas trouvé la solution. Il a cherché, mais pas vraiment clairement trouvé de solution. Son disciple Malebranche, grand philosophe français aussi, qui était un religieux, il a cru trouver la solution de la manière suivante. Si il y a union entre l'âme et le corps, les deux substances de l'esprit et du corps, c'est pas directement. C'est Dieu qui fait que lorsque je pense, il faut que j'étende le bras, à l'occasion de cette pensée qu'il suscite dans mon esprit, suscite le mouvement du bras. On appelle ça l'occasionnalisme. Il est tellement impensable que ces deux substances soient vraiment unies que Malebranche, pour expliquer l'expérience que nous faisons tous, qu'il y a une pensée et qu'il y a un geste du corps en même temps, dit « c'est Dieu qui produit séparément l'un et l'autre, mais en même temps, à l'occasion de cette pensée qu'il suscite dans mon esprit, il suscite le mouvement de mon bras. » Ça paraît fou, hein, mais c'est voilà comment les philosophes tentent d'être logiques jusqu'au bout. Ils adoptent là le dualisme, eh bien, il faut être rigoureux. Le philosophe allemand, et qui devait quand même pas mal à Descartes, mais qui est critique de Descartes, Leibniz, Gottfried Leibniz, lui, a un autre système, mais ça revient un peu au même. Il dit c'est que Dieu a tout programmé. Dans sa prédestination, il a prédestiné toutes les pensées de mon esprit et tous les mouvements de mon bras. Alors c'est pas juste sur le moment qu'il fait que l'un correspond à l'autre, c'est dans le programme, c'est dans sa prédestination. C'est une harmonie pré-réglée. Je vous cite ces cas-là, non seulement pour vous familiariser avec la manière de penser des philosophes, mais aussi pour vous montrer que le problème de l'union de l'âme et du corps dans la perspective cartésienne est très difficile à résoudre. Et que les philosophes qui ont vraiment voulu travailler la difficulté ont émis ce genre de solution, proposé ce genre de solution. Ça, c'est les tendances dualistes. L'autre tendance, c'est la tendance, au contraire, moniste. Moniste, de monos un seul, refuse la dualité. Alors, elle la refuse avec plus ou moins de lucidité et de conséquences. Les stoïciens, en principe, la refusaient, puisqu'ils n'avaient qu'un monde divin, la différenciation ne trouvaient pas vraiment de place. Donc, en principe, ils étaient matérialistes, mais c'était un matérialisme bizarre, rempli d'une espèce de spiritualité. Les stoïciens, en principe, n'étaient pas dualistes pour la composition de l'être humain. Les épicuriens non plus. Alors les épicuriens, eux, ils ressemblent beaucoup plus à beaucoup de modernes. Pour eux, tout ce qui est, c'est des atomes. Alors ils sont si petits qu'on ne les voit pas. Mais ils tombent comme ça, comme de la pluie, et même sans ordre. Et puis, alors, de temps en temps, ils s'accrochent, ils s'agglomèrent. Et ça fait les êtres que nous connaissons. Puis ça se défait. Si c'est des êtres immatériels, ça part en poussière. Si c'est des êtres vivants, on appelle ça la mort. Mais il y a des atomes qui se sont accrochés un moment, puis qui se décrochent. C'est de là que vient l'expression « avoir des atomes crochus ». Ça, c'était la thèse des épicuriens. Cette thèse était tout spécialement forgée pour éliminer la peur. La peur de la mort. La peur de Dieu. Les épicuriens avaient trouvé cela pour dire il n'y a pas à avoir peur de la mort. Des atomes s'accrochent, des se décrochent. Et quand la mort est là, eh bien, la personne n'y est plus. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas à avoir peur. C'était, je crois, le mobile de leur construction, entre autres. Et aussi par rapport au Dieu. Parce que, vous voyez, il n'y a pas de Dieu pour demander des comptes. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Donc, les épicuriens non plus n'avaient pas de dualité constitutive. Et il faut se rendre compte que le monde de la philosophie moderne et de la mentalité même autour de nous, qui est influencée par les philosophes, mais qui n'a pas de formulation philosophique précise, refuse la dualité de manière très très large. Nos contemporains en général sont matérialistes ou, s'ils sont agnostiques, ne croient pas qu'il y ait une distinction radicale de composants dans la nature humaine. Ils refusent l'idée d'une âme qui est vraiment distincte du corps et qui, du coup, survit à la dissolution du corps. C'est la position que nous rencontrons le plus souvent et qui est élaborée, théorétisée par la plupart des philosophes de la période des deux derniers siècles. Il n'y a pas unanimité, mais c'est la plupart. Donc, par rapport aux philosophes d'aujourd'hui, c'est cette affirmation de la dualité qui est propre à notre position chrétienne. Parmi les problèmes qui sont traités, il y a la relation de l'âme et du cerveau. La tendance donc des penseurs de notre temps, c'est de considérer que c'est le cerveau qui pense. Il n'y a pas d'âme en dehors du cerveau. Si on emploie le mot âme, c'est pour une fonction cérébrale. Et puis c'est tout. Et ils invoquent donc toutes les recherches de la neurobiologie, tout ce qu'on a pu observer du caractère très finement déterminé de tout ce que nous attribuons à notre cœur, notre âme, notre esprit, du caractère très finement déterminé par la chimie du cerveau, par nos hormones, etc. Mais ceux qui affirment toujours la dualité, comme je crois qu'il faut le faire, répondent mais que ça ne nous gêne absolument pas, puisqu'il est bien clair que l'âme et le corps sont intimement unis dans la vie présente. Que s'il y a deux principes qui sont associés, composés l'un avec l'autre par la création divine de l'humanité, la neshama divine et puis le corps tiré de la terre, ce n'est pas une simple juxtaposition, c'est une compénétration intime. Donc, rien d'étonnant à ce que, à tous les mouvements de notre être spirituel correspondent des phénomènes corporels et qu'il y ait influence réciproque. Cela est conforme aux perspectives de l'anthropologie biblique. Mais c'est un champ de discussion et nous avons eu donc il y a il y a 2 ans maintenant, 2-3 ans, je ne sais plus, un colloque à la faculté qui était consacré à ces problèmes, à l'âme au cerveau. Et il y a un livre qui a été publié, sous la direction de mademoiselle Lydia Jäger, qui traite justement des rapports de l'âme et du cerveau, du point de vue biblique, et du point de vue aussi des sciences. Elle a associé des scientifiques évangéliques et les professeurs de la faculté. Moi, j'ai aussi contribué à ce livre. Donc, je vous recommande ce livre si le sujet vous intéresse davantage. Parmi... Je vais accélérer un peu. Parmi les traits qui caractérisent l'être humain comme image de Dieu, il y a la liberté. La liberté, dans la perspective biblique, ça ne paraît pas liable. C'est un thème qui revient en toutes lettres, avec le mot même, dans le Nouveau Testament surtout, mais dans l'Ancien, il n'est pas absent, et on peut dire qu'il est présent dès Genèse 2. L'être humain est placé devant deux termes d'une alternative. Il y a l'obéissance et la désobéissance. Librement, tu mangeras de tous les arbres du jardin, y compris l'arbre de la vie, qui représente, je crois, la communion avec Dieu, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la prétention à l'autonomie, tu ne mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Et le fait même que, dans la situation originelle, il y ait ces deux termes de l'obéissance et de la désobéissance qui sont évoqués, je crois, marque l'importance de la liberté comme ce dont est doué l'être humain. L'être humain n'est pas rivé à un programme d'instinct, l'être humain n'est pas comme un fétu emporté par le courant. Il a cette capacité justement pour répondre oui à Dieu, alors que toutes les autres créatures sont obéissantes à Dieu. Les canards et les moustiques qui sont obéissants à Dieu, mais ils lui répondent ni oui ni non. Ils font ce que leur instinct leur prescrit. L'être humain seul est doué de cette liberté. Mais cette liberté, dans la perspective biblique, est une liberté limitée, créaturelle, et non seulement elle est donnée par Dieu, mais son exercice est soumis au jugement de Dieu. L'homme doit rendre compte, il y a responsabilité. Responsabilité, c'est le fait de devoir répondre de ses actes devant quelqu'un, donc, qui en fait l'évaluation. C'est la responsabilité. La responsabilité est tout à fait caractéristique de la situation de l'être humain devant Dieu. Et il est intéressant de voir ce que cela donne du côté des philosophies, hein, tout spécialement modernes. D'une part, la liberté est glorifiée, exaltée, absolutisée dans l'humanisme. Dieu s'efface, la liberté devient ce qui caractérise l'être humain suprêmement, mais alors elle n'a pas de borne. Elle est sa propre référence, donc elle devient absolue. C'est ce que revendique un très très grand nombre de philosophies. Alors ça a trouvé une expression particulièrement forte dans l'existentialisme. Sartre a été sans doute Jean-Paul Sartre, le philosophe qui a développé cette logique de l'absolu de la liberté humaine le plus fortement. Et c'est son argument d'ailleurs pour exclure Dieu. Ou Dieu existe et je ne suis pas libre, ou je suis libre et il n'y a pas de Dieu. Il a posé le problème en ces termes. S'il y a un Dieu, il détermine les choses, donc je ne suis plus absolument libre. si je lui dois ma liberté, si je dois lui rendre compte, cette liberté est bornée. Donc, cela est intolérable pour le sens de la liberté que Jean-Paul Sartre a exprimé. Mais en même temps, cette revendication de l'absolu de la liberté se heurte à l'expérience du réel. Au sens même de la responsabilité qui continue quand même d'être présent chez la plupart des humains. Si vous dites à des gens même, sauf peut-être quelques philosophes qui osent tout, mais si vous dites à la plupart des gens que leur liberté est limitée par des juges, ils vont réagir très très fort. Mais si vous leur dites qu'à ce moment-là, ils sont irresponsables, ils vont pas du tout accepter de se dire irresponsables. Or, s'il n'y a aucune instance qui soit au-dessus de la liberté, on ne peut pas avoir à répondre de ses actes. Dire responsabilité, ça implique limitation, instance supérieure. Mais voilà, ça fait partie des contradictions de la mentalité ordinaire de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et vous avez tout autour de nous à la fois la revendication d'une liberté illimitée et l'affirmation quand même que c'est responsable. C'est assez courant. Lié à cette difficulté, il y a la difficulté d'associer cette revendication absolue de la liberté à l'impression que nous avons tous que pour certains de nos actes que nous posons librement, quand même nous ne sommes pas 100% libres, que nous cédons à des pressions, qu'il y a des mécanismes en nous qui jouent. Sartre, lui, a eu la position très courageuse en un sens, parce que là, il était conséquent avec son affirmation, mais que pratiquement personne n'a reprise, qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes, que la liberté ne se mesure pas. Ou bien on est entièrement libre, ou bien on n'est pas du tout. Or, tout notre système judiciaire considère qu'il y a des circonstances atténuantes, qu'on est plus ou moins responsable, plus ou moins libre de ses actes. On l'est parce qu'on subit des pressions, y compris les pressions de la maladie, la pathologie, etc. La revendication d'absolue liberté est très difficile à penser. Je ne connais pas vraiment de penseur en dehors du christianisme qui gère cette difficulté de manière satisfaisante. Alors vous avez aussi, bien sûr, mais là ils sont très minoritaires parce que ça ne va pas dans le sens de l'humanisme. Des gens qui nient toute liberté, pour qui il n'y a que des mécanismes qui jouent et la liberté est pure illusion. Mais c'est une difficulté que ne résout pas, je pense, toute la gamme des philosophies contemporaines en dehors d'une perspective biblique. Si nous pouvons affirmer à la fois, nous, la liberté comme quelque chose d'authentique et qu'il y a effectivement des circonstances qui jouent, atténuent, des degrés de responsabilité, etc., c'est parce que tout est porté, mesuré, encadré par le Dieu créateur. Voilà quelques perspectives sur la place de l'être humain dans l'univers. Maintenant, j'ai encore un paragraphe, mais je vais le résumer. Cette vie humaine, caractérisée comme je viens de le dire, elle est structurée par Dieu. Outre le sens de Dieu qu'obscurément les hommes manifestent encore, Paul mentionne 5 traits structurels qui, en quelque sorte, donnent son dessein à la condition humaine. Et cela intéresse beaucoup les philosophes, c'est pour ça que j'en parle dans cet exposé. Il parle de l'origine unique et commune de tous les humains. Il a fait d'une seule origine. Certains manuscrits ont d'un seul sang, mais la plupart des manuscrits n'ont pas le mot. Donc il ne faut pas rajouter sang, mais il a fait d'un seul, soit d'un seul homme, soit d'une seule origine. Simplement d'un seul. Toute nation des humains. Deuxièmement, il parle, en parlant des nations, de la diversification en groupes Et il dit en particulier les nations. Alors c'est le mot ethnos qui a donné en français ethnie, hein, qui est traduit nation. Il peut avoir une gamme de sens, mais donc il y a l'unité du genre humain, il y a la diversité des nations ou des ethnies. Troisième trait, l'existence des temps déterminés. Il a déterminé l'ordonnance des temps assignés. Quatrièmement, il a aussi réglé l'espace, la disposition dans l'espace. Il a déterminé les frontières de leur habitat. Et cinquièmement, me semble-t-il, on peut dire que c'est un cinquième trait, en mettant l'accent sur l'art et l'inventivité humaine, beaucoup de traductions ont imagination humaine, que les artistes ont mis en œuvre dans la fabrication des idoles. Mais c'est un trait que l'homme développe des techniques. En fait, le mot traduit art, c'est le mot techné. C'est le mot qui a donné technique en français. L'être humain développe des techniques et il est capable de planifier, de réfléchir à des solutions, de les composer. Imagination et inventivité, c'est un mot qui met d'abord l'accent sur l'activité de penser. Alors tout cela est très intéressant pour une philosophie de l'être humain. Il y a d'abord la corrélation, l'affirmation ensemble de l'unité du genre humain, une seule origine, et de la diversité des nations. Je crois que c'est là un thème très riche et que la Bible nous affirme l'un et l'autre en dehors de ce passage. Et que nous voyons dans l'Écriture à la fois l'importance majeure d'affirmer que tous les humains sont tous descendants d'Adam, sont tous dans un seul ensemble en Adam, avec des traits de conditions humaines qui sont communs, et d'autre part, que Dieu a institué des structures qui différencient les groupes à l'intérieur de cette humanité. Elle n'est pas un seul bloc compact, ou elle n'est pas une simple addition d'individus. Il y a des communautés avec des identités qui ne n'ont pas une valeur absolue, mais qui ont une valeur relative que Dieu a voulu. Il a lui-même distribué la réalité humaine de cette façon. Alors, vous vous en rendez compte, hein, à quel point les conséquences éthiques sont importantes. Les débats qui ont précédé la campagne électorale ou dans la campagne électorale nous montrent à quel point c'est des choses importantes. Identité, y a-t-il une identité nationale? Quelle est sa valeur? Tout le combat contre le racisme doit se fonder sur cette unité du genre humain, procédant d'une seule origine. Donc, vous voyez la richesse pour une réflexion philosophico-théologique de ce thème. Le temps et l'espace, il a déterminé les temps, déterminé les espaces, sont les deux modes de coexistence fondamentaux des êtres humains. Et là, d'un point de vue philosophique, je pense qu'il y a deux points que je peux relever avant de venir pratiquement à la conclusion. Il y a le caractère objectif du temps et de l'espace. Cela vous paraîtra évident. C'est le bon sens de dire que le temps existe vraiment en dehors de ce que nous pensons, de ce que nous voulons. Mais il y a des philosophes qui ont prétendu le contraire. Le grand philosophe Kant, que certains considèrent comme le plus grand philosophe de la modernité, il y a plusieurs candidats, hein, mais le grand philosophe Kant a affirmé la non-objectivité du temps et de l'espace. Ce sont des formes a priori que nous apportons. C'est nous qui rangeons ce qui... Alors, on ne peut pratiquement pas en parler, c'est au-delà. Précisément pour en parler, pour les penser, nous avons besoin de ces formes. Mais c'est nous qui les apportons. C'est un sujet très délicat, très difficile. Moi, j'ai beaucoup apprécié les trois volumes de Paul Ricoeur, du philosophe Paul Ricoeur sur le temps, Temps et récits, qui à mon avis fait une très bonne critique de Kant et d'autres aussi, bien qu'il n'ait pas été un évangélique. C'est un sujet très difficile, mais oui, je crois que appuyé sur ce qui est dit dans Acte 17, nous pouvons dire que le temps est une création objective de Dieu comme disposition de ce monde visible qu'il a organisé. Deuxième trait, la combinaison du temps et de l'espace et de la liberté comme caractéristique de l'être humain fait qu'il y a une histoire sensée, une histoire pourvue de sens. Il n'y a pas un chaos d'instant, il n'y a pas un mécanisme qui se déroule, même si on le dit dialectique, il y a une histoire où les libertés s'affrontent, où des décisions sont prises dans un sens ou dans un autre, et l'apôtre Paul, clairement, en parlant des temps d'ignorance, en parlant de la venue de Jésus-Christ, etc., nous propose une structure pour l'histoire, qui donne sens à l'histoire, qui permet à chacun de se repérer et de décider, à son tour, d'user de la liberté que Dieu lui donne face à cette histoire que Dieu conduit selon son plan. Je crois qu'en dehors de l'idée de plan de Dieu que la Bible nous enseigne, elle l'enseigne très clairement, au-delà de ce passage-ci, Éphésiens 1 par exemple, il accomplit toute chose, il opère toute chose selon le conseil de sa volonté. Et en dehors de cela, les philosophes sont incapables de résoudre le problème de l'histoire, de son unité et de sa diversité interne. Et j'ai été ému, en un sens, oui, je l'ai été, parce qu'à la fin de son livre, Paul Ricoeur pratiquement avoue cela. Il ne veut pas recourir à la solution du plan de Dieu, parce qu'il n'était pas évangélique, mais en même temps, il montre très clairement qu'il n'a pas de solution. Ayant fait des analyses extrêmement fines et brillantes, etc., quand il en vient à cette question de l'unité de l'histoire, malgré sa diversité, comment est-ce qu'il peut la fonder? Comment est-ce qu'il évite que l'histoire s'émiette en une poussière d'instant, ou se prenne comme un bloc de glace? Il n'a pas de solution. J'ai admiré son honnêteté, puisqu'il, pratiquement, il le reconnaît, mais en même temps, c'est un échec, parce qu'il refuse la solution biblique. Voilà, je cite cela comme une illustration de ce qui, pour moi, est au cœur du dialogue entre un témoin de la foi, instruit par la Bible, et les philosophes contemporains. Alors, je mentionne maintenant les options pour la suite. Je pense que j'ai pris assez de temps pour faire quelques commentaires sur Acte 17.